Aujourd'hui, nous consacrons notre troisième et avant-dernière prédication de cette série commencée fin mai à la famille. J'espère que les deux premières prédications ont été une bénédiction pour chacun d'entre vous, que vous soyez père, mère de famille ou envisageant constituer une famille, puisque les prédications s'adressent à tous. Et j'espère que celle de dimanche prochain le sera également. Dimanche dernier, nous avons vu la décision de Josué de se connecter, lui et sa famille, à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour celle de ce matin, nous avons choisi comme titre une question ambitieuse, s'il en est, comment bien élever un enfant ? Comment bien élever un enfant ? Question sans doute que beaucoup se posent. Et les deux textes de base qui inspireront nos pensées ce matin se trouvent dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 6, et dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5 à 9. Alors, ces deux passages vont nous permettre de tisser quelques réflexions en guise de réponse à cette question de ce matin. Je dis bien quelques éléments de réponse, parce que la question est vaste, n'est-ce pas? Et je pense que nous pourrions passer toute une année à parler de la famille Bible ouverte, parce que la Bible dit beaucoup de choses. Voici ce qu'ils disent. Proverbe 22, alors je ne sais pas si tout le monde peut le lire, j'ai visé plutôt la photo, l'image que les paroles, mais c'est un verset très court. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le deuxième, dans Deutéronome chapitre 6, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » J'ai choisi juste ces deux passages, mais on pourrait continuer, il y en a d'autres. Il n'y a pas de doute, selon la Bible, il est de la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants, de les préparer à la vie d'adulte en les aidant à bâtir leur vie non pas sur du sable, mais sur des fondations solides, stables, fondations durables qui tiennent. Tout le monde connaît sans doute l'histoire des trois petits cochons, n'est-ce pas? Nif, nif, naf, naf et voilà, et nouf, nouf. Le premier décide de se fabriquer une maison en paille. Le deuxième en bois et le troisième en briques. Inutile de dire que celle qui a résisté au grand méchant loup, c'était la seule qui était solide, c'est-à-dire celle qui a été bâtie avec des briques, n'est-ce pas? La seule possibilité d'aider nos enfants à bâtir sur du solide, sur du durable, c'est-à-dire des vies qui résistent au grand méchant loup que dans la Bible est appelé le lion rugissant et rusé, cherchant qui dévorer, l'adversaire, le malin, le tentateur. C'est bien de bien accompagner nos enfants, surtout les premières années de leur vie. Et j'aime bien cette image qui accompagne cette première diapo, du verset 22, du chapitre 22 de Proverbes, ce père qui donne la main à son fils et qui se met en route, qui se met en marche avec lui, à côté de lui, et en regardant devant. Très bonne image, je trouve, de ce que signifie l'éducation d'un enfant. Effectivement, c'est de la responsabilité des parents d'éduquer, d'instruire leurs enfants. C'est de leur responsabilité de les accompagner, de leur donner la main. C'est de leur responsabilité de leur inculquer ce qui est fondamental à leur vie, de manière à ce qu'ils deviennent des adultes responsables, intègres, honnêtes, bien dans leur peau et heureux. Or, la seule manière efficace de contribuer à cela, c'est, nous le savons bien en tant que chrétiens, de leur transmettre des repères, ceux que la Bible nous donne, les principes et les conseils pleins de sagesse que Dieu notre Père nous a laissés dans sa parole inspirée. Ceux-ci sont les seuls qui permettent de poser des bases solides d'une vie conforme à la volonté de Dieu, une vie qui a du sens, une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est intéressant d'ailleurs que Jésus ait utilisé la même image, ou presque, de la construction des maisons, celle de l'homme qui a construit la sienne sur du sable, ce que beaucoup, hélas, font aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils construisent leur vie sur du sable. Et l'autre qui a construit sa maison sur du roc, ce que nous sommes encouragés tous de faire en ce qui concerne notre vie et celle de nos enfants. Inutile de vous dire que celle qui a résisté à la tempête, c'est bien évidemment celle qui était posée sur des fondements solides. Et l'enseignement que Jésus retire de cette image, c'est que l'homme prudent est celui qui entend et met en pratique ses paroles. Notre rôle de parents, c'est d'aider nos enfants à entendre et à mettre en pratique les paroles du Seigneur, et notamment les repères que Dieu, l'initiateur de la famille, le fondateur de la famille, celui qui a créé la famille, nous a laissés dans sa parole, afin qu'ils puissent construire leur vie, non pas sur le sable de ce monde, mais sur le roc qui est le Seigneur et sa parole. Et dans une société comme la nôtre, comme disait quelqu'un, sans père ni repère, il suffit de voir d'ailleurs le nombre croissant d'enfants déboussolés dans notre société aujourd'hui, dans des familles dites recomposées. Famille recomposée. Joli mot pour essayer de masquer l'absence de lien biologique et la souffrance de ces gamins issus de familles, il faut le dire, éclatées, disloquées, déchirées. Car c'est ça la réalité qu'on ne veut pas voir en face. On sait que le divorce des parents blesse à jamais la vie des enfants. J'ai eu trois enfants, nous avons eu trois enfants. Les copains venaient souvent avec eux à la maison et j'ai vu, même dans leur comportement, les réactions de ces enfants issus de familles divorcées. La colère visible qui était en eux. Des blessures pour le reste de la vie. Et aujourd'hui, on nous rabâche à longueur de journée que le père est mort et que sa place peut être remplacée par quelqu'un d'autre. Un père de substitution, ça va aussi. C'est peut-être même mieux. Mais un monde parfait, comme celui de Clint Eastwood, n'est-ce pas? Ce très beau film que sans doute vous avez vu. C'est au cinéma, ça. Ce n'est pas la réalité de la vie de chaque jour. Ce n'est pas pour du vrai. Pour de vrai, personne ne peut remplacer le père. Dans cette société qui perd à grands pas toute référence morale, c'est très, très précieux de connaître les repères que Dieu nous a laissés dans sa parole, de les mettre en pratique au sein de nos familles et de les inculquer à nos enfants. C'est ce que la parole, c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Cela veut dire que nous ne sommes pas uniquement les géniteurs de nos enfants. C'est facile d'être les géniteurs des enfants, n'est-ce pas? Nous sommes également les gardiens de leur âme. C'est à nous que le Seigneur nous a confié, il nous a donné la responsabilité de les aimer. Et j'allais dire de les aimer bibliquement parlant, parce que on sait que l'amour à la manière du monde est un amour parfois un peu à côté de la plaque, un amour un peu bizarre, n'est-ce pas? Il y a aussi des bonnes choses, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que la société confond souvent amour et surprotection. Amour et permissivité. Amour et enfant gâté. D'ailleurs, plusieurs études en sciences d'éducation démontrent que qu'un enfant surprotégé, à qui tout est épargné, toute difficulté, à qui tout est donné, tout confort, tout ce qu'il veut, un enfant qui n'a jamais connu la plus petite difficulté, il se retrouve démuni face à la réalité de la vie un jour plus tard. Et lorsque les difficultés s'abattront sur lui, les épreuves de la vie par lesquelles tout un chacun passe, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a confié nos enfants et nous donne la grande responsabilité non seulement de les aimer, mais de les élever, de les éduquer et de les accompagner le mieux possible, surtout les premières années de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est ces premières années-là qui forgent leur caractère, n'est-ce pas? En leur inculquant les valeurs morales et spirituelles que nous trouvons dans la parole de Dieu et en leur aidant à développer une conscience du Dieu de la Bible, le Dieu qui est amour et qui est justice aussi. Pas simplement amour, le Dieu amour et justice. Même la croix nous montre, n'est-ce pas, l'amour et la justice de Dieu. Ce Dieu sous le regard duquel nous vivons, et ils peuvent aussi vivre heureux s'ils choisissent la foi chrétienne, notre foi, la foi des parents, bien sûr, c'est leur choix. Mais au moins qu'ils soient éduqués dans ces choses-là. Vous savez que dans les familles juives, la transmission des commandements de Dieu aux enfants était considérée comme quelque chose de primordial, de fondamental. La preuve, ce commandement, n'est-ce pas, qui leur a été donné, que nous avons déjà lu, et que les Juifs répétaient ce commandement quotidiennement, matin, midi, soir, de manière à ne pas oublier ce que Dieu leur avait dit. Cette responsabilité d'être les leaders de leur famille, de leur foyer, et de conduire leurs enfants. Je vais le relire, ça vaut la peine. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de la maison et sur les portes de tes villes. La parole de Dieu au centre, même de la vie du foyer, même au centre de la vie du foyer. Voilà le rôle attribué aux parents, rôle qui reste toujours pertinent. Si nous voulons avoir des enfants heureux et si nous voulons avoir une société heureuse, différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est l'appel de Dieu pour chaque parent, celui d'être les locomotives spirituelles de leur famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille, dans le foyer, qui ait ce rôle-là, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut d'abord aimer Dieu, comme il nous demande, car, sachons-le, notre vie de parents parlera toujours plus fort que nos paroles. Le psalmiste avait pris une décision importante quand il disait « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Car nous le savons bien, notre marche, notre conduite, notre comportement dans toutes les situations, au foyer, à l'extérieur, etc., sera vu de nos enfants. Nos comportements, même lorsqu'on conduit la voiture, n'est-ce pas? Et c'est ce qui leur parlera le plus. Comment nous nous comportons avec notre conjoint, c'est-à-dire avec leur père ou leur mère? Avons-nous tendance à monter le ton d'une octave, souvent à la maison? Comment nous nous comportons avec les autres autour de nous, nos voisins, les automobilistes que nous croisons sur la route lorsque nous conduisons? Sommes-nous bienveillants ou arrogants et suspicieux? Etc., etc. Notre conduite devant nos enfants. Sachant que les enfants regardent ce que nous faisons et nous imitent et nous imiteront, nous devons donc veiller à l'exemple que nous leur donnons. Et c'est en nous voyant vivre, c'est en nous voyant gérer et régler nos émotions et même nos conflits, parce que soyons réalistes, nous avons des conflits, même à la maison, n'est-ce pas? Et en observant notre façon d'agir et de réagir les uns avec les autres, qu'ils apprendront beaucoup de choses et qu'ils recevront les enseignements les plus marquants de leur vie. Nous apprenons à nos enfants tant par le précepte que par l'exemple. Ce que nous laissons, ce que nous faisons, nous est aussi essentiel à l'éducation. Et ce que nous disons, notre exemple de vie parle et influence nos enfants au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si nous leur enseignons à dire la vérité, nous devons dire la vérité en toute situation, en toute circonstance. Si nous leur enseignons à valoriser toutes ces vertus dont nous parle la Bible, je vais citer quelques-unes, la bonté, la miséricorde, la compassion, la fidélité, l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, l'amour, le pardon et toutes les autres qui doivent modeler nos pensées et la leur, nous devons aussi mettre en pratique, valoriser ces choses en nous-mêmes, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous-mêmes, en tant que parents chrétiens, nous devons chercher à vivre une vie exemplaire devant nos enfants. Je sais que ce n'est pas facile, il n'y a pas de personne n'est parfait. Mais ça, nous pouvons le dire aussi à nos enfants. Et je vous disais dimanche dernier que parfois, il faut savoir demander pardon à son enfant, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'ils sauront que demander pardon, c'est pas être faible. Quand on se trompe, quand on fait mal, on demande pardon. Savoir demander pardon à nos enfants. Nous devons vivre ces choses déjà dans nos vies, au sein de nos familles, de nos relations les uns avec les autres, avec certes toutes les imperfections qui nous caractérisent, bien sûr, mais en montrant aussi à nos enfants que nous aussi, nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous aider à mener une vie qui l'honore et qui sera une véritable bénédiction pour eux et pour ceux autour de nous. Si nous enseignons à nos enfants à canaliser leur passion juvénile, et je pense surtout, mais pas simplement, aux adolescents, n'est-ce pas? À canaliser donc leur passion là où il convient. Cela veut dire que nous aussi, nous nous efforçons de canaliser les nôtres, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres d'émotion. Si nous enseignons à nos enfants à ne pas voir n'importe quel dessin animé ou n'importe quel film, d'ailleurs, soyons attentifs à ce que nos enfants regardent à la maison. Nous avons des petits-enfants et souvent, avec ma femme, on a cherché des dessins animés. Mais beaucoup de ces dessins animés-là, il faut les mettre à la poubelle. Il faut les éloigner de notre maison. Il faut les éloigner. Ils transmettent beaucoup de mauvaises choses, de mauvaises pensées et incitent à faire le mal. Donc, il faut être très attentif. Il faut chercher plutôt ce qui incite à faire le bien, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous aussi, nous ferons attention à ce que nous voyons, à ce que nous regardons à la télé, n'est-ce pas? Et ainsi de suite pour tout le reste. Ce n'est pas la société, cette société malade et corrompu qui se plaît à vivre dans l'iniquité et qui propose même l'iniquité sur nos écrans, qui va leur enseigner ces choses. Au contraire, elle propose, c'est ce qu'elle veut que la société fasse, n'est-ce pas ? La famille est le cadre, il y a le lieu d'apprentissage par excellence. Et cet apprentissage se fait avant tout par l'exemple que nous donnons à nos enfants lorsque nous cherchons nous-mêmes à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, etc., et à mettre sa parole en pratique. Il y a un autre proverbe qui me parle beaucoup en tant que père et grand-père, c'est celui-ci. Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et ses enfants trouveront auprès de lui un refuge. Et ses enfants trouveront auprès de lui un refuge. Cela veut dire que lors des moments difficiles que nos enfants vont vivre, ils savent où aller trouver, ils sauront où aller trouver refuge. Ils savent où ils peuvent trouver de l'aide, des conseils, du réconfort, de la consolation. Car notre vie les inspire, les inspire et les inspire. Donc ils n'auront aucun problème à venir se confier à nous. Mais permettez-moi de faire une remarque encore concernant le verset 6 de Proverbe 22. C'est qu'il dit, j'allais dire, il dit plus que ce qu'il dit, ce qu'il semble dire en tout cas. La traduction affichée dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » D'abord, il me semble que le mot « instruire » ou « enseigner » est insuffisant, ne suffit pas pour décrire la richesse du mot qui est dans l'original biblique. Je vais le dire, c'est le mot « shanak » en hébreu. Ce mot comporte l'idée de mettre en marche, d'entraîner, de guider, d'aider à découvrir, de donner la main à son enfant. Il décrit aussi ce que nous faisons parfois lorsque nous goûtons la nourriture en y plongeant un doigt, n'est-ce pas ? Et que nous exclamons en le mettant à la bouche, « Oh, que c'est bon !» pour donner envie au bébé ou à l'enfant de manger ce que nous avons préparé. Et ce que nous avons préparé, nous estimons que c'est nécessaire à son alimentation, à sa santé, à sa croissance. Donc, essayez de lui donner le goût. Voilà la richesse de ce mot. Richesse qui décrit donc notre rôle de parent. Donner goût, envie à nos enfants de marcher dans les voies de Dieu, les voies qu'il a tracées pour le bien de l'humanité, pour le bien de nous tous, de marcher avec Dieu jour après jour dans chaque situation. Pour cela, il faut que nos vies aient véritablement un impact sur la vie de nos enfants. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la psychologie très en mode aujourd'hui, n'est-ce pas, et la pédagogie moderne valide ce qui est écrit dans ce verset. Il valide tout à fait. C'est pendant l'enfance, nous disent-ils, n'est-ce pas, et on le sait bien, que le cerveau de l'enfant est le plus réceptif, le plus modélable, n'est-ce pas ? Cela ne veut pas dire que vous devez faire n'importe quoi avec votre enfant, n'est-ce pas ? Faire de lui ce que vous auriez aimé être. Hein. Malheureusement, il y a encore des familles dans la société qui pensent comme ça, n'est-ce pas ? En fait, utiliser l'enfant à vivre son rêve à lui par procuration, quoi. Ce que je n'ai pas pu faire, je vais l'imposer à mon fils, à ma fille. Non, nous sommes appelés, la parole de Dieu nous appelle à respecter nos enfants, à respecter leur identité, leur personnalité, ce qu'ils sont. Leurs dons, leurs tendances, n'est-ce pas ? Et ceux qui ont plusieurs enfants savent qu'ils sont tous différents les uns des autres, n'est-ce pas ? L'enfant est unique. Il n'est pas une copie de je ne sais pas qui. Non, il est unique, il est ce qu'il est. Je pense que nos réflexions de ce matin nous font prendre donc conscience de notre responsabilité immense de parents, n'est-ce pas? J'espère que ce que je suis en train de vous dire ne vous écrase pas, parce qu'il faut le redire encore, il n'y a pas de parents parfaits. Nous apprenons en étant parents, n'est-ce pas? Et souvent, c'est quand on est grands-parents qu'on se dit « Ah, j'aurais pu agir autrement, n'est-ce pas ?» Mais nous pouvons compter toujours sur la grâce de Dieu. Mais cela nous montre que notre responsabilité va bien au-delà de cette responsabilité de nourrir, de vêtir nos enfants, de leur donner tout le confort matériel. Non, ça va bien au-delà de ça. Peut-être que certains parents parmi nous ce matin ont dans leur cœur et dans leur bouche cette prière de Manoah, père de Samson, qui suppliait Dieu de lui renvoyer son messager afin qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. C'est d'ailleurs une très belle prière, n'est-ce pas? Avant même que l'enfant ne vienne au monde, de prier Dieu de nous aider à bien le recevoir dans la famille, avoir le discernement nécessaire pour nous occuper de lui, etc. Peut-être que la plupart d'entre nous, vos enfants sont déjà nés, n'est-ce pas? Certains sont même déjà presque adultes ou adultes, n'est-ce pas? Et peut-être que certains se sentent parfois un peu démunis face aux réactions, par exemple, des ados, n'est-ce pas, qui passent par cette phase critique de leur vie par laquelle tout le monde passe. Et vous vous dites, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas capable, je suis incapable d'assurer. Cette tâche immense est terrible, je ne peux pas. Alors je dirais, faites confiance au Seigneur et vivez dans l'espérance, parce que ce proverbe 6, 22, du chapitre 22, verset 6, nous permet de vivre dans l'espérance, quelle que soit la situation que nos enfants vivent. Leur situation n'est pas désespérée. Elle passe, c'est une période, elle passe. Chanak, l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà le principe biblique. Alors, l'expérience a montré que ce n'est pas une promesse absolue, parce que nous savons qu'il y a des enfants de familles chrétiennes qui se sont détournés, n'est-ce pas? Donc, c'est le livre des Proverbes, des principes de sagesse, retirés sans doute des réalités de la vie de chaque jour. Mais c'est quand même un principe biblique. Donc, au moins, ce principe biblique nous permet à nous, les parents, de ne pas trop flipper, de jouer notre rôle et de continuer à le jouer dans l'espérance de la parole de Dieu. D'ailleurs, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, dimanche prochain, ça va continuer, mais on pourrait donner plusieurs exemples de personnes qui ont été éduquées dans la foi chrétienne, d'enfants qui ont été éduqués dans la foi chrétienne et qui finalement ont embrassé la foi chrétienne, ont fait le choix d'embrasser la foi chrétienne, n'est-ce pas? C'est un choix personnel. Je pense à Timothée dans la Bible, n'est-ce pas? Le pasteur Timothée.
Vous savez, j'ai de très bons souvenirs.
De ce principe. Dans ce passage de 2 Timothée chapitre 1, Paul écrit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Donc il parle à Timothée. « Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. » Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. La mère et la grand-mère de Timothée aimaient Dieu toutes les deux et lui ont appris à l'aimer aussi, ce qui lui a permis donc d'intégrer l'équipe missionnaire autour de l'apôtre Paul et à devenir l'un des compagnons les plus fidèles de l'apôtre, n'est-ce pas, hein, de ceux sur qui l'apôtre Paul pouvait compter. Permettez-moi de terminer avec deux passages. C'est un autre contexte, mais je crois qu'elles s'adressent aussi, elles peuvent s'adresser aussi à nous, les parents et grands-parents. Quelque chose qui est très important. L'apôtre Paul dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. On pourrait dire la même chose pour nos enfants, n'est-ce pas, ce qui concerne nos enfants. Et après, au verset 11 et 12, il rajoute, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Nous avons exhorté, nous avons consolé, nous avons adjuré de marcher de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Des choses que nous pouvons et que nous devons faire avec nos enfants. Puisse le Seigneur nous aider à être de ces parents-là qui accomplissent la volonté du Seigneur dans la vie de leurs enfants. Tout ce qui est de mauvais, ils vont l'apprendre ailleurs. Tout ce qui est bon, qu'ils puissent l'apprendre à la maison. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour les familles de notre Église. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, qui fréquentent notre Église junior. Merci pour les parents à qui tu as confié l'éducation de ces enfants, tous les parents qui sont présents ici ce matin et ceux qui sont absents, Seigneur, nous pensons à tous. Que ta grâce repose sur chacun. Donne à chacun, Seigneur, le discernement nécessaire pour mener convenablement leur vie de famille, de manière à ce qu'elle-ci soit sauvée et honore et dignifie ton nom dans cette société, Seigneur, qui part à la dérive, notamment en matière de famille, nous le savons. Seigneur, permets à chaque parent ici ce matin de vivre dans l'espérance. De vivre dans l'espérance que leurs enfants sont à toi et que tu prends soin d'eux. Nous voulons aussi profiter de cette occasion, Seigneur, pour te confier les animateurs de l'Église junior, Seigneur, qui complètent l'enseignement de ta parole que ces enfants reçoivent à la maison, qu'ils doivent recevoir à la maison. Veille sur chacun, Seigneur, veille les bénir, veille les équiper, Seigneur, pour ce ministère ô combien important, Seigneur. Et nous te prions d'appeler d'autres à te servir dans ce domaine. Merci, Seigneur, d'avoir institué la famille. Nous te bénissons pour nos familles et nous te les confions. Au nom de Jésus, Amen.